Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct du locaux du comité Maméga pour les échos du Grand Saint-Barthélemy sur 88.4 et en plus en DAB+, vous savez que c'est la modernité aujourd'hui qui s'impose et nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui.
Même drapeau, ni la même couleur de peau. On n'a pas le même langage, la même culture, les mêmes images. On n'a pas les mêmes racines, les mêmes idoles qui nous fascinent. Mais chacun de nous est vivant, avec la même couleur de sang. Et on a tous le même soleil, la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? On n'a pas les mêmes coutumes, d'autres rites, d'autres costumes. On n'a pas les mêmes histoires, mais leur mélange ont fait l'histoire. On n'a pas les mêmes parents, mais on est tous encore enfants. Devenu fou mais né si sage. Et on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous la même planète qui nous supplie d'être moins bête. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? Le même soleil et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous la même planète qui nous supplie d'être moins bête. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommeils.
Et oui, vous retrouvez les échos du Grand Saint-Barthélemy sur 88.4 et un de plus.
Marie-Yves, donc mes souvenirs de cette enfance très heureuse. Donc on avait beaucoup d'amis, on sortait souvent, on gambadait de partout. Les parents, ils avaient une confiance inouïe aux voisins, donc c'était très bien. Comme elle disait Joséphine, nous avions toutes nationalités confondues et dans un immeuble, on pouvait faire le monde entier. Donc, on apprenait la culture des uns, des autres. C'était vraiment, on était tous main dans la main. Voilà, en fait, c'est des souvenirs qui nous ont habités, qui nous ont permis d'être ce qu'on est aujourd'hui. Et je pense que mes racines viennent beaucoup de Saint-Barthélemy 3, où j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont permis plus tard après de créer mon propre chemin.
En ce qui me concerne, je garde un très bon souvenir de ce quartier. Je suis arrivé en 67 avec ma famille, j'avais 9 ans. Ce qui m'a fortement marqué au début, c'est que dans mon immeuble, je l'ai dit tout à l'heure, nous étions la seule famille maghrébine, aucun Africain. J'avais des voisins espagnols, italiens, pieds noirs, je ne comprenais rien à tout cela, mais... il y avait une certaine chaleur humaine, oui. Qu'on ne comprend pas. Je me rappelle, mon ami, sa mère faisait, comme nous, les Maghrébins, on fait le couscous tous les dimanches matins. Alors là, c'est une tradition, les Maghrébins, dimanche matin, c'est le couscous. Et par contre, ma voisine italienne faisait la pizza. Et elle dégageait une odeur dans le couloir, mais alors magnifique, elle mettait des herbes de Provence. J'y comprenais rien. Et quand j'allais voir mon copain, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait ta mère? Il y a une odeur qui me tue. Il m'a dit, c'est la pizza. Tu sais, nous, les Italiens, c'est traditionnel. Et il me dit, la prochaine fois, je t'assure, je vais dire à ma mère. Et le mercredi suivant, sa mère m'appelle et me donne une part de pizza. C'était vraiment des choses qui n'existent plus aujourd'hui, quoi. Quelque chose de simple. On peut aimer, ne pas aimer, mais vous avez le voisin qui venait taper chez vous. Maman, elle me demande si vous avez un peu de sel. Maman, elle me demande si vous avez une tomate. C'est quelque chose qui a disparu. Mais je garde quand même l'image d'un quartier cosmopolite où tout le monde se connaissait. Je connaissais les parents de tous mes amis sans pour autant qu'eux-mêmes me connaissent. Donc c'était quelque chose de fabuleux. Et on garde, bien sûr, au fond du cœur, cet amour fort que ce quartier nous a dégagé à l'époque.
Il retient de ce quartier, hein, qu'il a connu en étant adolescent, c'est cela.
Ben, moi, je pense que je vais me préserver de parler. Je préfère écouter les autres. Pour une fois que j'ai la chance d'avoir certains d'entre vous présents aujourd'hui, je passe mon tour.
C'est bien. Donc, moi, ma question, c'est que nous sommes en présence de notre génération. C'est voir un peu à partir de la description qui a été faite par les uns et par les autres. C'est quelle est l'image que vous retenez, parce que la situation a énormément évolué, que la composition de la population a extrêmement évolué et changé. Et qu'est-ce que vous posez, quel regard que vous portez sur cette génération ou sur cette description de qui a été faite par les uns, par vos aînés, pourrions-nous dire. Qu'est-ce que vous en pensez,
Soala? La génération d'après. Donc ce serait bien que la génération de Soala, d'Abou... Et du petit jeune qui est arrivé, le petit dernier.
Alors, oui, je vais peut-être témoigner. Moi, je suis né dans les années 90, donc j'ai 35 ans. Et effectivement, j'ai un autre regard. D'une part, je suis issu de la communauté comorienne. Donc, mes parents sont arrivés en France dans les années 70. Ils sont arrivés dans un premier temps dans le quartier du Panier. Et puis, par la suite, ils sont arrivés à Fontvert. Et dans les années 90, à Fontvert... Donc on retrouvait de nombreuses familles issues de la communauté maghrébine, mais très peu de familles comoriennes. En fait, elles se comptaient sur les doigts d'une main. Donc on a grandi avec des Maghrébins, des Tunisiens, des Algériens, très peu de Marocains. Et je me rappelle, avec Antoine et Ahmed, finalement, on n'était que 5 ou 6 Noirs sur fond vert. Donc c'était assez particulier. Donc moi, je suis issu d'une famille modeste, avec des conditions de vie assez précaires et difficiles. Néanmoins, j'ai vécu une enfance assez heureuse. Donc, on avait l'école de Fontvert qui était en plein cœur de la cité. Les voisins se connaissaient, on échangeait, on partageait pas mal de choses, notamment des repas, comme vous avez pu le dire tout à l'heure. Donc, on était des amoureux du sport, notamment du football. On avait un petit terrain de foot où on se réunissait quasiment tous les jours. Donc, voilà, c'est un peu ce que je retiens de mon enfance.
À vous.
Alors moi, faut savoir que avant d'arriver au Grand Saint-Barthélemy, avec mes parents, on habitait à La Juliette. Donc on était dans un petit appart, un tout petit T2, vraiment très petit. Et lorsque mes parents ont décidé d'arriver à la Busserine, j'ai été frappé. On est passé d'un petit T2 à un grand T5. Donc ça m'a déjà émerveillé par l'espace que j'avais à disposition à l'époque. Et ensuite, pareil, je suis arrivé dans un immeuble où il y avait une mixité qui était hallucinante à l'époque. Donc on avait des Maghrébins, on avait des Antillais, on avait des Gitans. Et pareil, ce qui m'avait frappé, c'est la solidarité. Donc comme ça avait été dit précédemment, donc c'était une entraide. Quand mes parents partaient travailler, on avait le voisin qui veillait sur mes frères et moi. Donc c'est vraiment ce côté entraide et solidarité qui m'a vraiment marqué. Et j'ai aussi vécu mes meilleures années dans le quartier. Et c'est là aussi où j'ai attrapé le virus du dessin et de l'art. Et les amitiés qui se sont forgées, qui sont encore présentes aujourd'hui. Voilà.
Alors je vais prendre la parole 2 minutes parce que je suis ravi d'entendre Abou s'exprimer avec autant de fougue et de verbe. Parce que c'était un adolescent très timide. Et donc, il a bien progressé depuis. Merci. Et puis, il faut savoir que c'est un artiste talentueux, un infographiste. Il filme, il maîtrise toutes les nouvelles technologies. Et ça fait du bien de le voir ici aujourd'hui.
Oui, donc, nous allons poursuivre. Alors, À un moment donné, ce que nous pouvons considérer qu'à notre époque, pour certains, bon, de ma génération, voire de la génération de Jean-Pierre, Fonds Vert, Picon, et Grand, Saint-Barthélemy 3, ont les résidents de ces quartiers s'identifier qu'à travers l'image de la Busserine. Je ne sais pas, bon, quand on habitait Fonds Vert, Picon, on disait on est de la Busserine. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, Joseph, veux-tu aussi, parce que c'était la réalité du moment, c'est bon, groupe Saint-Barthélemy 3 n'était pas connu. Donc, c'était de dire, nous sommes de la Busserine. Inès aussi, tu peux réagir aussi et penser le pourquoi de cela, d'une part. Et d'autre part, la question que je peux poser, c'est selon vous, quelle peut être l'identité aussi de Saint-Barthélemy, de Picon, de Fonds Vert, de nos quartiers ?
Ben, j'ai l'impression que les habitants de la Busserine s'imposaient plus par rapport aux autres, a priori. Mais d'autre part, il y avait le terminus du bus, je crois, qui se finissait ici. Il s'était marqué la Busserine. Donc c'est peut-être pour ça que les gens s'identifient à la Busserine. C'est peut-être plus parlant dans l'esprit marseillais plutôt que Picon ou Fonds Vert. Je pense que c'était dans de cette façon-là. Voilà.
Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est que la Busserine, c'était le premier quartier. Donc, c'est le quartier générique. Saint-Barthélemy 3, le Mail, Picon, les Flamands, ce sont construits après la Busserine. Alors, certains se revendiquaient de la Busserine parce que c'était le quartier premier. Mais moi, je me rappelle quand j'étais à Tursainte, la Busserine avait un tel, dans les années 70, une telle réputation que je ne voulais pas dire que j'étais la Busserine. Je faisais bien le distinguo en disant « je suis de Saint-Barthélemy 3 ». Je voudrais aussi intervenir pour dire que la mémoire de la Busserine, nous avons pas mal d'éléments. Je voudrais demander à Olivier et Soila quel est le travail qu'ils ont fait sur fond vert et pourquoi ce travail.
Jean-Pierre, tu n'as pas animé l'émission. Tu es un invité. Alors, j'ai une remarque sur la question de la notion de village. Parce que quand j'entends parler au début de la première génération et la génération suivante, je crois que l'idée du village, c'est l'idée qui me vient à l'esprit parce que bon, les gens sont proches les uns des autres, se rendent service facilement. Et donc, apparemment, ce n'est pas seulement la très ancienne génération dont je fais un peu partie, mais c'est aussi la génération suivante. Je pense que c'est un élément très important. Après, une question qui me semble intéressante pour notre docteur, Joseph Béchara, ça fait quoi le fait d'avoir toujours vécu là, dans votre relation aux patients, est-ce que ça change quoi ?
Ben, ça, personnellement, j'ai été toujours très fier de soigner, d'avoir eu à soigner M. Thier, mais les anciens voisins qui m'ont fait confiance. Parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir la confiance des anciens. Et j'ai eu des personnes, des anciens de Fonds Vert, famille Bouhamra ou de la famille Nourri, d'autres. Et donc, j'étais fier d'avoir cette confiance de la part de ces gens-là. Et dans le quartier, bon ben, d'avoir la confiance de M. Boulali ou de M. Ega, Franz. Prendre ses gars de suite. Il m'a même permis d'accoucher de sa fille. Elle est là à l'époque où je faisais des accouchements. Pour moi, c'était une fierté d'avoir de soigner des gens comme ça. Et voilà, j'ai essayé de mériter leur confiance jusqu'au bout.
Oui, mais c'est extraordinaire d'avoir grandi ici, d'y être resté, d'avoir vécu et d'être devenu médecin tout en voulant rester dans ce même lieu. Il y a certaines personnes qui ont voulu rejeter un peu cette image, ce sentiment d'appartenance à un quartier, d'autres qui n'ont pas fait, parce que c'est comme si c'était une forme de tâche, parce qu'il y avait la réputation de la Busserine de l'époque, qui n'était pas forcément les meilleures, d'autres qui faisaient telle façon à se revendiquer de ce quartier. Tout simplement, pourquoi ? Pourquoi se revendiquer de ce quartier ? Ce quartier, c'est un quartier qui est dynamique et vivant, où il y a un vivier associatif extrêmement fort et puissant. C'est ce qu'il faut essayer de mettre en exergue chaque fois, me semble-t-il. Donc, nous allons poursuivre avec Ness. Ness aussi.
Si tu permets, il faut toujours lutter contre ce délit de faciès. C'est un délit de faciès parce qu'on est des quartiers nord, on n'est pas capable d'émerger de réussir quelque chose. Ça, c'est dans l'esprit imaginaire des Marseillais. Hein. Mais il faut lutter contre ça. J'ai 72 ans maintenant. Toute ma vie, j'ai lutté contre ça. J'ai combien d'amis qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu as été installé dans ce quartier pourri ?» machin, chose. Ce quartier pourri m'a permis d'avoir une belle clientèle, de bien travailler, de vivre, de faire vivre ma famille et de façon honnête et de côtoyer des gens extraordinaires dans ces quartiers. Voilà.
Donc, Agnès, veux-tu réagir à tout ça et en rappelant un peu qu'il y a eu des personnages aussi, des personnalités, tant d'un côté, hein, tel que malheureusement notre regretté bon, Roland, hein, ou d'autres qui font partie de l'histoire de ce quartier sur lequel on ne va pas cracher, puisqu'ils étaient présents, très présents. Ils ont marqué, il y a eu d'autres personnes, d'autres personnalités, y compris toi, alors, que tu as grandi, que tu es, et que ce quartier t'a construit quelque part, comme a construit Joséphine, que ce soit Marie-Yves, ainsi que les autres collègues qui sont ici, les autres amis qui sont ici. Alors,
il y a deux points. Le premier point, je reviens sur la question précédente, pourquoi la Busserie n'est pas Saint-Barthélemy 3, Picon, Fontvert. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait l'école communale garçon et l'école communale fille qui faisaient partie entièrement de la Busserine. Et que l'on soit de Saint-Barthélemy 3, de Fontvert ou d'ailleurs, on s'est tous retrouvés dans ces écoles-là. Moi, j'étais dans la classe avec des gens de Fontvert, Picon ou Saint-Barthélemy 3. Ça, c'est le premier point qui nous a complètement... Ensuite, bon, il ne faut pas oublier que le point central, si on trace une symétrie, permettons l'expression, c'était le bâtiment P. Le bâtiment P, il avait, si vous voulez, le point de rencontre central. On se souvient de certaines familles, la famille Adjemout, la famille Filali, la famille... Et donc, ces gens-là ont fortement marqué, et c'est pour ça qu'on disait, oui, on est de la Busserine, sans pour autant être réellement de ce quartier-là. Ensuite, moi, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais un jour, je vois un ami qui me dit, on avait 13 ans, tiens, tu veux gagner un peu d'argent, là, il y a un type à Picon, à côté de la Busserine, qui embauche. 13 ans, nous sommes au mois de juillet, je pars avec lui. Et ce copain de 13 ans, c'est mon voisin italien qui m'a fait permettre de goûter la pizza de sa maman. On arrive, il faisait du culturisme, il était fou de culturisme. Donc il avait des bras, vous imaginez, par rapport aux miens. On arrive devant ce monsieur, un Polonais au deuxième étage. On dit « Bonjour monsieur, il paraît que on veut travailler. » « Ah bon, montez. » On monte au deuxième étage, on le voit. Et il nous dit lundi matin, à 6h du matin, « Je vous prends avec la camionnette. » À 6h du matin, on se pointe. Et voilà qu'on fait une semaine, mais dans le bâtiment. Mais je vous dis, je suis rentré avec des ampoules, je n'en pouvais plus. Ma première paye, il m'a donné 150 francs et il a donné 200 francs à mon petit voisin Georges, que j'oublierai jamais. Et je lui fais la remarque, je lui dis pourquoi. Il m'a dit, lui il est costaud, toi tu es encore maigrichon. Et je lui dis, attendez, si c'est comme ça, il m'a dit, la semaine prochaine, je te donnerai pareil. Je me rappelle une chose, j'ai donné ça à mon père. Et il m'a dit, mais tu as pris ça. Je lui dis, j'ai travaillé. Il m'a dit, je ne veux pas que tu travailles. Travaille à l'école, je ne veux pas de cet argent. L'école avant tout. Mon père était illettré, hein, il ne savait ni lire ni écrire. Mais il avait cette force de comprendre que l'école était la solution pour sortir de cet enclavement, quoi. Alors très vite, j'ai compris ça. Ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler l'été. Mais la fatigue de ce chantier m'a aussi dit dans ma tête, moi j'ai pas eu la chance comme Béchara de dire je vais être médecin. Mon cerveau ne voulait pas. Sincèrement, je suis allé à l'école dentaire du Pharo. Je voulais m'inscrire en tant que dentiste. C'était fermé. Je suis allé à la fac de chimie de Saint-Charles et bizarrement, on m'a admis à Saint-Jérôme. J'ai eu la chance de faire un DEA à Saint-Jérôme. Mais parce que j'avais cette force en moi qui disait, même si c'est dur, accroche-toi, accroche-toi. Et j'avais un orgueil bien ou mal placé. Je me suis dit, tu n'as pas le droit à l'échec. Tu fais partie des peut-être cas epsiloniens qui peuvent sortir. Vas-y, fonce. J'ai eu la chance aussi que mon père m'a rattrapé à un moment où ça dérapait en me payant une école privée, l'école de Toursainte avec Jean-Pierre, où sincèrement, je retiens une très, très formidable école, beaucoup de discipline et beaucoup de réussite. Voilà un peu. J'ai laissé, comme certains copains, malheureusement, effectivement, qui n'ont pas eu la chance, ou peut-être, je ne sais pas, la force mentale. Roland, par exemple, Thierry, son frère, Christian, que j'ai bien connu, autant de jeunes qui, malheureusement, Jean-Claude, je me rappelle ces jeunes hommes, Nino, un Italien adorable, des gens adorables, mais comment expliquer que certaines vont dans un cursus universitaire et que d'autres n'y vont pas ? C'est un raccourci de dire c'est leur faute. Je ne pense pas que c'est leur faute, mais je pense qu'il y a énormément de facteurs qui font que, malheureusement, on peut accéder à des études supérieures comme ne peut y accéder. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment l'explication, mais moi, j'encourage toutes les mamans, les papas de ces quartiers, que ce soit la Busserine ou ailleurs, de mettre le paquet pour leurs enfants. Parce qu'on ne le regretterait jamais de voir la réussite à travers les yeux de son enfant.
Je voudrais faire peut-être deux remarques, parce que moi j'étais prof à Toursainte. Donc l'idée que Toursainte était un très très bon lycée, c'est une blague. Justement, je n'ai pas terminé. Justement, parce qu'ils choisissaient leurs élèves qui venaient de partout. Il y avait un quart qui amenait des enfants de bourgeois. Et donc c'est pour ça que vous croyez que c'était un très bon lycée. En fait, c'est un lycée comme les autres, sauf qu'ils choisissaient leur public. Toi, tu as été apparemment une exception. La plupart des publics, c'est des publics de familles aisées, des familles dont les parents ont fait beaucoup d'études, etc. Et donc, croire que c'est Toursainte qui t'a sauvé, à mon avis, c'est un peu... Et après, la question de comment on arrive, la question de l'enseignement, on sait qu'en France, l'enseignement, si tu es d'une famille modeste, tu as beaucoup, beaucoup de mal à t'en sortir... Même si tu es très motivé, etc. Après, il y a des exceptions. Tu en fais partie. D'autres en font partie parmi nous ici. Mais il ne faut pas du tout penser que l'école française est faite pour que les enfants de quartier populaire réussissent. Elle était faite pour qu'ils échouent. Et malheureusement, de ce point de vue-là, elle a atteint son objectif. C'est-à-dire que les gens du quartier populaire ne font pas beaucoup d'études, mais parce que c'est un choix politique.
Au-delà de ça, bon, je pensais que ces quartiers qui ont construit... Oui, donc non, nous n'allons pas nous étendre un peu là-dessus, parce que Toursainte, ce n'est pas l'objet, malgré tout, de cette émission. Donc nous allons poursuivre, parce que ce qui me porte, c'est de pouvoir dire qu'il y a des jeunes, des personnes qui sont nées dans ces quartiers, qui s'en sont sorties. Il y a, par exemple, l'acteur Moussa Masri, que tout un chacun des Flamands. Nous avons aussi Bourich, la famille Bourich, je ne sais pas si vous vous souvenez, notamment Jamel Bourich, qui était psychiatre, ethnopsychiatre, donc qui a une très bonne réputation. C'est qu'il y a une possibilité, si les jeunes aussi ont un désir de pouvoir s'en sortir socialement, mais tout en disant, effectivement, mon lieu de construction, c'est le quartier du Grand Saint-Barthélemy qui m'a donné ce désir de pouvoir sortir de la situation dans laquelle je me trouvais, mais je ne renie pas aussi mes racines, mes origines et mes relations que j'ai construites au fur et à mesure. Jean-Pierre veut intervenir, mais nous allons après faire une pause musicale tout en disant qu'il y a différents équipements sociaux et en fonction des générations, quels sont les équipements sociaux ? Est-ce que vous les avez fréquenté ou pas, parce que je pense notamment à la MFA qui existe jusqu'à présent et qui a rendu service à bon nombre de jeunes de nos quartiers.
Donc, concernant les réussites, je ne sais pas si j'ai besoin de micro, mais concernant les réussites, d'ailleurs autour de cette table, il n'y a que des réussites issues du quartier, mais il n'y a que des réussites. Et il y a eu, par exemple, au-dessus de chez nous, là, au bâtiment E8, on a une famille comorienne, j'ai oublié le nom, avec deux jeunes, il a deux enfants qui travaillent à l'ONU. Tu vois ? Nous avons aussi, parmi la génération d'Abou, les frères Emsar. Nous avons la famille Génisson ou Toubib, pharmacien. Il y a énormément de repères identitaires pour ce quartier, de familles qui ont réussi. Seulement, on oublie peut-être de le mentionner. Je vais faire court, hein.
À ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai que la réussite, elle est multifactorielle. Je ne dis pas que c'est telle école ou telle école, mais le premier facteur, ce sont les parents. les parents, c'est primordial. Quand vous avez un enfant qui a 12 ans, 13 ans, et qu'à minuit, il est dans la rue, dans le quartier, ne vous posez pas la question s'il va réussir ou s'il va échouer. Donc voilà l'exemple. Moi, je sais qu'à 10 heures, c'était le couvre-feu. Je ne vais pas être dehors.
Bon, oui, Joséphine, le micro. Oui, c'est bien que tu puisses intervenir. Parce que
je rebondis à ce que monsieur venait de dire. Et à l'époque, c'était rare de voir 19 heures. Tous les enfants couraient pour rentrer. Ils jouaient. À l'époque, il y avait deux ou trois familles comoriennes. Les Ousseïni, Issouf, je pense... Voilà. Mais jamais, on pouvait, le parent maghrébin pouvait corriger l'enfant camerounais en disant, qu'est-ce que tu fais dehors? Il est 19 heures. Il n'y avait pas de problème, comme au pays. Donc, l'enfant était pour tout le monde. Et l'éducation, c'est la base, c'est les parents. Oui. À l'époque, on ne pouvait pas voir des enfants traîner dehors, 13 ans, 9 ans, ni à crier, ni à faire ceci. Donc, l'école, moi, mes enfants ont été à l'école privée. Mais pourtant, j'étais pas riche. Ils étaient dans des écoles catholiques et avec des très bons enseignements.
Oui. Je voudrais juste rebondir. À notre époque, l'enseignement public était d'un très, très grand niveau, très haut niveau. Hein. Que ce soit à la Busserine ou ailleurs, c'était d'un très haut niveau. On n'avait pas besoin d'aller dans les écoles privées à l'époque. Et moi, personnellement, tout mon cursus, c'était dans les écoles publiques. D'abord, mes parents n'avaient pas les moyens. On était 10 enfants. Pour aller. Et puis d'autre part, c'est vrai que les meilleurs, ils allaient dans les lycées. Moi, j'ai eu la chance d'aller au lycée Saint-Charles. Et on m'a dit, oh, tu es fils d'ouvrier, papa était veilleur de nuit, tu réussiras jamais. Ben, j'ai réussi. C'est un challenge hein, qu'on nous met. Mais je voulais aussi rebondir sur le fait que dans ces quartiers, il y avait une solidarité extraordinaire. Extraordinaire parce que l'été, papa nous disait, moi, je vous donne le toit et la nourriture, mais pour vos dépenses personnelles, débrouillez-vous. L'été, on travaillait. J'ai travaillé à la plaine pour décharger les camions qui, à l'époque, il n'y avait pas le marché d'intérêt national. Il fallait donc qui venaient de Château-Renard, qui venaient de Cavaillon, etc. Après, j'ai travaillé aux raffineries de sucre parce qu'on avait des voisins qui travaillaient à tel et tel endroit qui nous disaient, viens, tu... L'été, on travaillait là. J'ai travaillé sur les raffineries de la Vera, quand on les a montées dans les années 71, etc. Une solidarité extraordinaire dans ces quartiers-là. Il y avait du travail, voilà.
Eh bien, merci de tous ces témoignages, mais j'aimerais bien que les générations actuelles puissent réagir à tout ce qui est dit et établir peut-être une différence et observer un peu ce décalage entre ces deux générations vivant dans les mêmes conditions et la génération d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez beaucoup de différences au-delà de ce dont vous avez déjà parlé, c'est-à-dire la solidarité?
Des différences, pas tellement. Moi, je rejoins un petit peu le discours qui a été dit par mes aînés, à savoir les conditions de vie qui ont été difficiles, même si il y avait cette volonté de réussir de la part de tout le monde. Et moi, je pense que c'est assez réducteur de mettre la responsabilité à la fois sur les parents ou sur l'école. Effectivement, c'est assez multifactoriel. Mais je pense que tout enfant issu d'un quartier populaire a une envie et une volonté profonde de réussir. Et la réussite, pour moi, elle se traduit sous différentes formes. Hein. Elle peut être familiale, scolaire, professionnelle ou personnelle, culturelle. Mais je pense que voilà, ce qui m'intéresse, au-delà des trajectoires individuelles, c'est notre avenir commun. Et finalement, qu'est-ce qui nous réunit et vers quoi on tend, de manière collective, malgré nos différences ou nos points de vue communs. Moi, je rejoins un petit peu le discours de Saïd, qui disait que finalement l'école, et c'est un peu ce que dit Pierre Bourdieu, hein, c'est le premier lieu où se voient les inégalités sociales. Donc voilà, quelque part, c'est effectivement le rôle de l'école. En tout cas, il donne la possibilité à ceux qui ont les ressources de réussir. Et effectivement, quand on est issu d'un quartier populaire, on n'a pas forcément les mêmes chances et les mêmes formes de réussite, en tout cas de ressources, à la fois intellectuelles, matérielles ou autres. Et pour rebondir un petit peu sur votre discours, sur les aînés, déjà la question de la transformation urbaine et au niveau des familles, elle n'était pas équivalente dans les années 90, parce que les familles finalement italiennes où les communistes, dans les années 90, les années 2000, et au fur et à mesure, et on ne les voyait plus. Enfin, moi, personnellement, je n'en ai pas connu, parce que je suis né en 90, d'une part. Donc, finalement, il y avait moins en moins de mixité ethnique, mais on avait quand même des singularités. Et puis, autre chose, après, je laisserai la parole à mes collègues, et peut-être que je reprendrai la parole là-dessus plus tard, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter la question politique au sens noble du terme, au sens sociétal. Parce que très souvent, on dit que les quartiers populaires sont des déserts politiques. Et moi, j'aimerais dire le contraire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de générations qui se succèdent et qui ont envie de faire des choses dans le quartier, qui sont investies. On parlait tout à l'heure des équipements sociaux qui ont été structurantes ou structurés, notamment la maison des familles. Moi, à titre d'exemple, j'ai connu la maison des familles en tant qu'enfant, en tant que jeune, puis j'ai été animateur, donc j'ai obtenu mon BAFA. Donc pour moi, la maison des familles, elle m'a apporté beaucoup. Au-delà de la maison des familles, il y a beaucoup d'autres acteurs associatifs sur le territoire qui ont compté, mais je vais m'arrêter là et je reprendrai la parole plus tard.
Oui, alors nous poursuivons. Alors, oui.
La pause musicale.
Oui, nous ferons une pause musicale juste après, une fois que nous aurons terminé avec le sujet. Alors, oui, nous allons poursuivre. À vous, et voilà, aussi.
Pour ma part, je rejoins aussi le discours de mes aînés en ce qui concerne... En ce qui concerne tout ce qui est familial au sein du quartier, moi je suis né en 95 et je trouve que cet esprit de famille dans le quartier à Fond Vert, il a pas énormément changé. On a grandi tous ensemble, on a vécu de très bons moments, et ce jusqu'au moment où ma famille a déménagé dans le bloc où je suis né et où j'ai vécu. Ça a toujours été famille, toujours bienveillant, toujours avec une bonne ambiance. Après, c'est vrai que ces derniers temps, vu le changement de famille, on va dire, le déménagement de plusieurs familles, ça a un peu changé. Mais sinon, je ne vois pas vraiment réellement de changement sur l'ambiance du quartier et le bon vivre qu'on avait au sein de la cité.
Oui, merci. À vous. Oui. Oui.
Alors moi, pour ma part, dans le quartier, moi, je voudrais insister sur le tissu associatif, donc qui, pour ma part, m'a beaucoup accompagné dans ma structuration, on va dire, artistique. Et notamment, on avait l'association Baudien Soul, le comité Mamega, donc qui m'ont donné confiance en moi et à mon art, et à me dire de ne pas me contenter de... le fait d'être issu d'une famille modeste, de rester dans mon coin, de ne pas avoir d'ambition. Donc j'ai eu la chance, j'ai fait une école publique, donc primaire, collège, j'ai pas eu de soucis particuliers. Et ce qui m'a frappé, c'est quand je suis arrivé au lycée, lorsque j'ai fait mes études artistiques en bac, art appliqué, où dans la classe, j'étais le seul noir. Pour ainsi dire, j'étais le seul noir et il y avait uniquement que des Français. Et c'est là où je me suis dit, à ce moment-là, que... Enfin, là où je voyais vraiment la démarcation qu'il y avait entre les différentes populations issues de lieux différents. Voilà, mais sinon, enfin, à part ça, je ne me suis pas mis de barrière. Je ne me suis pas mis de barrière. Ah ouais, mais c'est clair. Le seul noir, le plus grand en plus, donc voilà.
Tout. Donc voilà. Nous n'allons pas revenir effectivement concernant... Non, mais nous allons faire une petite pause musicale, s'il vous plaît. La question que je vous poserai, c'est à savoir, est-ce que vous connaissez Carlos Santana? Oui. C'est en fonction des générations. Peut-être que c'est une génération que les moins de 20 ans n'ont pas connu Carlos Santana. Et je vous propose d'écouter. Thank you. Et oui, je suis rassuré. Vous êtes à l'écoute des échos du Grand Saint-Barthélemy. Rassuré de savoir que Carlos Santana n'a pas d'âge, n'a pas de frontières, n'a pas de... que tout un chacun ici connaît, notamment Carlos Santana. Ceci étant, Jean-Pierre, tu voulais faire une liaison, me semble-t-il, une passerelle.
Juste une petite transition pour dire que c'est vrai, comme Joséphine le disait tout à l'heure, on est associé à l'aborder, cette notion de vivre ensemble, cette responsabilité collective qu'avaient nos parents. C'est vrai qu'ils ne s'interdisaient pas de réagir, d'intervenir, chose qui ne se fait plus aujourd'hui, puisqu'on a toujours peur de représailles. Et le commerce parallèle s'étant installé un petit peu dans tous ces quartiers, les gens n'osent plus intervenir. Je ferme la parenthèse. Autre élément sur lequel je voulais insister, c'est la mutation de la population. C'est vrai que, comme Ness on le disait tout à l'heure en aparté, pour lui comme pour moi, dans nos cages d'escalier, il y avait très peu de Maghrébins. Moi, il n'y en avait pas dans ma cage d'escalier, d'ailleurs. Il y avait des Italiens, des Espagnols, des Français d'origine multiple, des Antillais, mais il n'y avait pas de Maghrébins. Les Maghrébins, nos amis Maghrébins, étaient au bâtiment P, étaient à la Bessurine. Ensuite, donc, pour parler de cette mutation, cette population-là ayant accès à la propriété s'est installé dans des quartiers ouvriers, servières, ou a quitté le quartier, ou à l'extérieur de Marseille. Et je me suis aperçu un jour, en me réveillant, à Boudensoul, que moi-même, j'ai pris conscience que j'étais noir, j'en parlais tout à l'heure avec Olivier, que l'animateur qui faisait l'animation avec nous était noir, et que tous les enfants de nos ateliers étaient noirs. Donc je me suis dit qu'il y a quand même un problème. Donc je me suis dit, cela ne m'a jamais interpellé, mais quand j'ai regardé le rapport d'activité et les photos, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et donc le quartier s'est progressivement ghettoisé, mais ce n'est pas du fait de la population. Le quadrillage géographique n'étant pas neutre, ce sont les politiques qui ont remplacé les populations partantes par une population d'origine comorienne, africaine, etc. Voilà, je referme la parenthèse. Et je voulais donc tout à l'heure passer peut-être la parole à Joseph Béchara qui ne va pas tarder à nous quitter, et puis revenir sur le travail de mémoire de nos amis de Fonds Vert, qui me paraît important de souligner.
Donc, je
comprends bien. Oui. Donc, tu deviens animateur, mais tu n'as pas posé de questions.
Il n'a pas posé de questions. Mais...
Donc, tu as le dernier mot.
Oui. Ce que je voulais, là où je voulais rebondir, c'est où on veut en arriver. C'est ce qu'a dit
Soala
tout à l'heure. Et surtout, nous projeter sur l'avenir. Plutôt que fuir ce quartier, il faudrait peut-être penser à affronter les problèmes. Bon, indépendamment des problèmes de toxicomanie qu'on rencontre, du commerce illicite, il y a des gens qui méritent qu'on s'intéresse à eux dans ces quartiers. Il n'y a pas que des drogués, que des voleurs et autres. Et ces gens-là méritent qu'on s'intéresse à eux. Il y a une parabole dans l'Ancien Testament de la Bible. Lorsque Dieu demandait à Abraham, Dieu voulait raser Sodome et Gomorre, et Abraham a dit à Dieu, oui, mais s'il n'y en avait que 10, est-ce que tu raserais la ville? Et c'est là que Dieu a dit non. Hein, donc il faudrait qu'on voit sur les gens qui sont dans ces quartiers, qui méritent qu'on s'intéresse à eux, et ne jamais baisser les bras, dans ces quartiers. Voilà.
Je te remercie, Joseph, et merci aussi d'être venu, de t'être rendu disponible. Merci de nous avoir présenté ton épouse. Oui, merci, Madame Béchara, d'être venue. Alors, à bientôt, j'espère, nous aurons le plaisir de nous revoir. Mais c'est bien, pour faire... Oui, Abou, il est très attendu, apparemment, mais en lien avec les propos de Joseph, il y a une phrase qui me revient, c'est celle de « décolonisons aussi les esprits ».« Décolonisons les esprits de part et d'autre, autant d'ici, afin de créer une ouverture aussi sur l'extérieur, que l'extérieur puisse venir, mais aussi que nous puissions aller vers l'extérieur. C'est cette ouverture, me semble-t-il, qui est essentielle. » Donc, ce qui me permet d'interpeller Olivier et les amis de Système D, par rapport au travail de mémoire, parce que le travail de mémoire à travers les grands ensembles, c'est, me semble-t-il, offre une perspective, offre une ouverture sur Marseille, pas que pour les quartiers nord, mais une ouverture. Alors je souhaite savoir qu'est-ce que tu en penses, comment le travail s'est-il fait, et en partenariat avec Système D, quelle a été leur place et leur rôle.
Peut-être pour commencer la discussion qu'on peut avoir finalement sur tout ce process qui a commencé il y a 5 ans, en fait je reviendrai peut-être sur ce que tu disais tout à l'heure sur la place du village, parce que je me souviens que François, là tu m'arrêtes, et Ahmed aussi, parce que vous étiez tous les deux là le jour où vous êtes arrivés avec votre sac d'archives, votre cabas d'archives d'images comme ça récupérées, glanées auprès des associations de la MFA. À la MFA, pardon, et de DRIFA, de Femmes Familles Fonds Verts, de la CLCV, y avait dans les interrogations, en tout cas dans les discussions qu'on avait eues entre nous, la question de faire village, en fait, de comment maintenir l'équilibre de fonds verts, de préserver cette notion de village qui faisait partie de vos souvenirs d'enfance, et comment vous aviez envie de transmettre cette histoire aux plus jeunes. Parce que, en fait, tout ça a commencé d'une réflexion que vous aviez, vous, je me permets limite d'enchaîner sur les questions, mais que vous aviez eu envie, vous, de faire naître, c'est-à-dire réimaginer finalement ce qui faisait le cœur de la dynamique de quartier. Vos souvenirs d'enfance, les associations qui avaient permis globalement de construire votre enfance en structurant des activités, et puis une envie ensemble de définir un futur. Et la mémoire, en fait, est devenue d'un seul coup un outil. Je sais pas, je me suis lancé dans un truc là, mais.
Après, ce qui était important pour nous, l'association Système D, c'était de pouvoir retransmettre la mémoire de notre du grand Saint-Barthélemy, surtout de notre quartier, aux plus jeunes et aussi aux anciens, c'est-à-dire de le mettre en visuel. Parce qu'il faut savoir qu'en gros, nous, à mon âge, moi je suis né en 86, et du coup, la mémoire de mon quartier, je ne la connaissais pas réellement. Et il est important pour moi de pouvoir le mettre l'association Système D, de le mettre en visuel, et de l'imager en quelque sorte, et surtout de le faire de manière intergénérationnelle, de faire participer les plus anciens, les plus jeunes et ceux qui sont entre les anciens et les plus jeunes. D'où le fait que Olivier nous avait proposé en même temps, lorsqu'on avait proposé le sujet, que je sois le fil conducteur pour que je puisse en même temps montrer aux plus jeunes et aussi aux aînés de quelle manière nous voulons raconter l'histoire du grand Saint-Barthélemy. Il y avait des choses quand on arrivait à récupérer les archives, moi et Soala et les adhérents de l'association Système D, qui nous avaient interpellés. Quoi. En gros, des images de moi, petit, où j'avais complètement oublié. Et au fil du temps, ça m'a fait remémorer des choses qui m'ont permis de mettre en valeur notre histoire et surtout l'histoire du quartier.
Je suppose que vous avez déjà eu des productions, vous avez déjà fait des films. Comment vous les diffusez? Comment vous faites en sorte que les gens les voient d'abord dans ce secteur et bien sûr dans le reste du monde?
Alors c'est un sujet qui est toujours très présent. On n'en a pas terminé avec ça, bien sûr. Disons que l'idée, c'est qu'au fur et à mesure des projets qu'on a pu mener ensemble, parce que du coup on a fait ce premier film, un docu-fiction qui s'appelle Grand Ensemble de 52 minutes, et là, on vient de terminer une frise chronologique qui raconte et qui donne la possibilité aux habitants de raconter, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, chacun à sa manière, des souvenirs de périodes différentes de la cité Fonds-Vert, mais aussi, et on essaie de tisser le lien avec le village de Saint-Barthélemy, qui est donc juste derrière Fonds-Vert, pour essayer justement de donner le plus de profondeur. Et dans l'idée, maintenant, en fait, on a ces deux outils qui sont prêts, et qui sont soit mises à disposition parce que, par exemple, on a été invité à l'espace Busserine à présenter la frise chronologique. Et précédemment, on avait présenté le travail à la MFA et on avait projeté le film qu'on avait réalisé il y a 5 ans. Et là, ces deux formes sont très complémentaires parce que le problème du film, c'est que ce film, on avait fait des entretiens d'une trentaine, 45 minutes à chaque fois pendant le tournage. Et on est forcément dans un film de 52 minutes, on réduit la parole. Là, aujourd'hui, avec la frise chronologique, on a des entretiens qui durent beaucoup plus longtemps et on peut retransmettre par l'écrit beaucoup plus de paroles. Et on essaye, du coup, pour répondre à la question, maintenant de trouver soit des partenariats avec lors d'événements. On a été approché par le Musée d'Histoire de Marseille pour pouvoir continuer à présenter ce travail. Et justement, c'est pour ça qu'on a pris contact avec le collectif Maméga aussi, pour essayer d'y aller ensemble, parce que l'histoire de Fond Vert, c'est aussi l'histoire de la Busserine, c'est aussi l'histoire de Picon, de la Benos, et que du coup, tout cet ensemble-là a toutes les raisons du monde ses paroles et ses souvenirs ont toutes les raisons du monde d'être croisés. Après, c'est une question de disponibilité, d'opportunité. Si on nous offre la possibilité de projeter ou d'accrocher, on est premier. Mais on reste des corps associatifs, bénévoles pour la plupart, en tout cas pour Système D. Et du coup, ça demande aussi une mobilisation des bénévoles de Système D, et qui est nécessaire, mais qui est importante.
Quel investissement sera-t-il demandé aux membres de l'association Système D pour faire adopter notamment le projet et Olivier aussi par la même occasion par les habitants? Parce que ça peut ne pas être évident non plus. Bon, parce que avant que les habitants de nos quartiers puissent s'accorder une confiance en disant on a déjà entendu les politiques, on a déjà entendu et ce sont toujours des promesses qui ne mènent à rien. Donc pourquoi encore une fois? Alors comment avez-vous procédé?
Alors d'une part, tout à l'heure, j'évoquais la question de l'engagement associatif. Nous, on est issus de la cité Fonds Vert, donc on connaît les familles, on connaît les associations. Donc on a une certaine forme de légitimité, déjà, qui nous a permis de mobiliser les familles et les associations. Et tout à l'heure, je le disais, il faut arrêter de dire que les quartiers populaires sont des déserts politiques. Et finalement, nous, on s'inscrit dans une continuité de ce qui a été fait par nos aînés. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu sortir aussi de Fonds Vert pour aller voir au-delà de l'échelle micro-locale, pour aller voir à la fois la Busserine, avec le travail qui a été réalisé par le comité Maméga. Et finalement, tout le monde a adhéré. Parce qu'on vient du quartier, parce qu'on est reconnu et parce qu'on a cette volonté de nous inscrire dans la continuité et de finalement pousser la question de la mémoire qui a été déjà réalisée. Voilà, pour répondre. Donc, c'est un élément de réponse. Et je pense que nous, on a pris beaucoup de plaisir sur ce travail-là et on continue parce que ça fait maintenant 5 ans qu'on est sur ce créneau-là. Et je pense que ce qui est important, c'est que finalement, comment nous, tout à l'heure, je parlais d'avenir commun, comment encourager les plus jeunes à continuer à être dynamiques et à proposer des choses dans l'avenir.
Oui, vous ne faites pas table rase du passé, comme diraient certains. Ceci étant, oui, pas vrai, ça. Donc, pour revenir juste un peu, puis après je te laisserai la parole puisque tu viens juste d'arriver quasiment. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de rappeler qu'à Fonds Vert aussi, c'était la population, elle était aussi cosmopolite. Je me souviens que j'ai eu des collègues, les Lustros, les Bouchiques, les Rebaud, etc., qu'il Colette, entre autres, une fiancée lorsque j'étais plus jeune. Mais bref, il ne faut pas le dire trop fort. Bon, bref. Donc, ceci étant, donc pour dire que c'est un peu la même histoire avec le départ des Français de souche européenne, avec un changement de population, etc. Néanmoins. Donc, je vais te laisser la parole pour voir un peu quelle est l'implication des uns des autres. Soit là, nous le connaissons parce qu'il est toujours très actif. Et en plus, dans le milieu d'animation, nous le retrouvons et nous savons que ce qu'il est en capacité à faire et à mobiliser. Alors, je te laisse la parole.
Alors moi, pour ma part, je suis administrateur de l'association Système D. Je suis pas du milieu associatif. Réellement, j'y connais rien. C'est soit là qui s'occupe de la partie, tout ce qui est subvention, tout ce qui est papier, tout ce qui doit être fait. Après, on essaye de faire au mieux parce qu'il faut savoir qu'on est bénévole et on a nos vies à côté. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de s'organiser à chaque fois, faire des réunions, faire des points ensemble. Pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait pour les années qui vont venir et les sujets qu'on va aborder. Comme là récemment, l'année dernière, on a choisi de faire le projet Marseille. dans lequel on a essayé de faire voir aux jeunes de la ville comment elle a été construite la ville de Marseille, par quelle communauté, par quelle civilisation, voilà, merci Olivier, par quelle civilisation elle a été construite, de qui ils se sont inspirés. Donc du coup on a monté ce projet sur un an pour à la finalité les ramener en voyage. Ça nous donne une crédibilité pour rebondir sur la question de comment ils nous font confiance, parce qu'on mène des projets et on le fait de A à Z. C'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose, on essaye de mener le projet du début jusqu'à la fin. Et ça nous donne du crédit, ça fait que accroître notre réputation sur le quartier. Et tout ça en étant bénévole et en essayant d'être organisé au maximum. Donc,
Le nom Système D, ça veut dire beaucoup de choses. Je suppose que ça veut dire que vous comptez sur vous-même, c'est bien ça ?
C'est un peu un état d'esprit, effectivement, ouais. Tout à fait.
Merci.
Et oui, peut-être pour terminer, moi je pense que c'est important aujourd'hui de mettre en avant le fait que les acteurs associatifs qui sont ancrés sur le territoire ont cette légitimité-là. Parce que voilà, on le voit très souvent, des structures, des associations qui viennent sur les quartiers populaires, qui n'ont pas de légitimité, qui ne connaissent pas le public, qui ne connaissent pas les enjeux locaux et qui arrivent à obtenir des subventions importantes. Et au détriment des petites associations comme les nôtres, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais mettre en avant, parce que c'est important de souligner l'histoire et l'ancrage sur le territoire des habitants qui prennent des initiatives et qui le font de manière bénévole.
Ben, les vieux que nous sommes, on peut dire que c'est pareil qu'avant. Avant, c'était pareil, c'est-à-dire que les subventions vont toujours au même.
Alors, je voulais faire une petite transition, encore une très courte. Juste pour dire que la mémoire busserine, c'est vrai que le comité Mamega est référencé comme un élément, comme une structure bien ancrée sur la thématique de la mémoire depuis 2008. Et donc il y a des centaines d'émissions de radio avec beaucoup de défunts et sur toutes les thématiques possibles. Quand on regarde Jean-Marc Saïd, bon, on va se dire que la mémoire busserine est vieillissante. Ils sont encore avec nous, mais quand même, nous avons les cheveux qui blanchissent quand on en a encore. Par contre, je suis très content de m'associer à Fond Vert, à Système D, avec Olivier, avec cette jeunesse, parce que justement, on a besoin de... Quand je me suis arrêté sur le travail, sur la mémoire de Fond Vert, j'ai eu donc tous les éléments que vous connaissez, avec Ahmed, avec l'association de femmes, toujours les mêmes. Mais effectivement, il me manquait des éléments pour nourrir. Donc le travail que vous avez fait est considérable, est intéressant. Et je suis content que, partenarial que vous nous avez proposé, justement parce qu'on a beaucoup d'éléments, mais aurons-nous la force et l'énergie de pouvoir continuer à transmettre? Donc, à travers cette mémoire plurielle que nous allons proposer à travers Olivier et Système D aux archives, c'est une façon pour nous de ne pas perdre ce qui a été fait, de capitaliser et de passer le relais à la génération d'après. Parce que peut-être que demain, vu nos âges, que la mémoire busserine, elle sera peut-être portée par Système D à travers cette transition qui est en train de se profiler et à laquelle j'adhère entièrement.
Donc, je vais rebondir à nouveau et interpeller Abou. Abou, c'est le fil conducteur sur l'ensemble du Grand Saint-Barthélemy, me semble-t-il, à travers ce que tu peux apporter d'un point de vue artistique. Tu es à la busserine, tu es au flamand, tu es un peu partout aussi, hein, donc ce qui est bien. Donc tu es bien reconnu et identifié comme tel, ce fil entre du Grand Saint-Barthélemy.
Alors, tout à fait. Alors moi, pour ma part, moi j'ai plutôt un rôle de metteur en scène, entre guillemets, c'est-à-dire on me donne les informations et moi je fais en sorte qu'elles soient visualisées par le plus grand nombre. Donc faire en sorte que toutes ces informations-là soient comprises visuellement et textuellement. Et
sublimer aussi.
Merci Jean-Pierre, c'est un grand mot, sublimer, mais plutôt que compréhensible avant tout. Et c'est vrai que moi-même faisant partie d'une génération vieillissante aujourd'hui, hein, il faut se le dire, donc c'est vrai que le fait qu'il y ait une structure comme Système D est assez encourageant, parce que moi à un moment je me posais la question de qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a monté, ce qu'on a créé avec le comité Mamega, avec Boudjian Soul. Bon, faut savoir que moi, mon projet artistique que j'ai présenté au bac, c'était sur le parcours migratoire de Madame Ega. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Jean-Pierre, donc, qui m'a valu un bon 18. Donc, c'était assez inédit dans une filière artistique de travailler sur un tel projet. Et je me pose toujours cette question-là de qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces archives, tous ces documents. Et ben, ça fait plaisir que d'autres structures prennent le relais. Et que c'est vrai que la jeunesse d'aujourd'hui ne connaît pas son passé, ne connaît pas le passé de leurs parents. Des fois, c'est des découvertes. Enfin, des fois, je vois des jeunes qui sont ahuris de savoir qu'il s'est passé tel événement dans tel quartier. Et je pense que c'est très important parce que malheureusement, on constate que la nouvelle génération ne connaît pas du tout son passé.
Merci beaucoup, Abou. Mais j'aimerais bien rêver, puisque nous arrivons presque au terme de l'émission, c'est interroger à nouveau Madame Banach, Joséphine. À savoir, elle a fait le choix de rester ici dans nos quartiers. Me semble-t-il que tu habites toujours dans les quartiers? Ou aussi as-tu fait comme Ness et Marie-Yves de quitter le quartier tout en étant resté très, très attaché au quartier? Alors, qu'est-ce qui a motivé votre départ? C'est votre départ tout en restant attaché à ce lieu géographiquement? Tout simplement, c'est pour dire que peut-être qu'au niveau de ce processus de départ, cela peut aussi être le choix aussi des jeunes générations qui sont là. Donc, peut-être donner un éclaircissement sur le choix que vous avez fait.
Oui, je vais dire, je suis toujours, étant donné que la structure vit dans le quartier, plus de bientôt 25 ans, voilà, mais qui n'est pas tellement connue par la jeunesse. Déjà, à bout, chaque fois, je cherchais à mettre la main sur vous, mais je ne savais pas par quel canal. Voilà.
Voilà. C'est l'invention de la gloire.
Voilà. Par quel canal? Parce que, vous savez, quand on a créé la structure, c'était d'abord pour les hommes, les personnes âgées. On a recensé en 3 mois d'ouverture de la création de la structure, plus de 110 personnes âgées qui vivaient dans le Grand Saint-Barthélemy. Voilà. Et qu'ils étaient retraités. Et quand je dis 110, j'ai encore tous les dossiers. Ils ont travaillé toute leur vie. Et à la retraite, ils avaient leur retraite principale. Mais jamais ils n'ont touché la retraite complémentaire. Et j'ai découvert ça comme ça en partant d'un oncle, un vieux oncle. Et il était malade, en faisant ses papiers. J'ai dit, mais tu n'as pas la retraite complémentaire. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Puisque à l'époque, quand ils prenaient la retraite, on leur faisait le banquet. Et c'était tout à vous de vous débrouiller pour les papiers. En 3 mois, j'ai recensé 110 dans le Grand Saint-Barthélemy. Et Dieu merci, on a travaillé. Ces gens ont eu leur rappel. Il y a eu les anciens combattants, les tirailleurs sénégalais, qui habitaient le quartier, mais qui ont déménagé. Les enfants sont venus nous voir. On a pu, parce qu'au ministère des anciens combattants, on connaît Madame Banach, parce que je ne les lâchais pas. Parce que ce monsieur avait 5 000 francs CFA de pension militaire. Et il n'est pas le seul, ils sont nombreux comme ça. Je me suis battue, certains ont été décorés et on leur a fait le rappel. Mais après, on s'est élargi. Il n'y avait pas que les hommes et les femmes, donc l'accompagnement. Il y a aussi des jeunes. Parce que dans la structure, on n'a pas que des personnes âgées. On a des jeunes handicapés qui sont en situation d'handicap, qu'on prend en charge et que les parents, beaucoup ne sont pas lettrés, qui ne savent pas qu'il y a des démarches à faire pour certaines aides. Donc, on le fait. Mais malheureusement, à l'époque, les associations se connaissaient. Moi, je ne connaissais pas votre association. C'est la première fois où j'entends. Et je n'ai jamais vu venir taper chez nous en main dans la main. On parle de ma mémoire. Je ne sais pas si d'ici quelques années, on parlera encore de mémoire dans le camp Saint-Barthélemy III. Parce que ce qu'on voit, le déclin, presque tous les anciens sont partis. Nous, on a recensé, je crois, dans le quartier, il y a 3 blancs. Voilà.
Olivier, tu es le quatrième.
Voilà. Et je ne pense pas que les bailleurs sociaux facilitent vraiment le travail de ça. Pourquoi ? Je prends dans le Grand Saint-Barthélemy. Les Comoriens sont majoritaires dans le Grand Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, on ne peut pas. C'est-à-dire, dans un bâtiment, vous allez trouver un noir. Tous les autres sont des Comoriens. Et je veux vous dire quelque chose. J'ai été choquée. Quelqu'un a parlé de la politique. Ce sont les politiques qui font du n'importe quoi. Je ne citerai pas le nom. Un jour, je reçois une demande pour l'embauche. Et sur la liste, pour l'attribution des logements, j'ai pris la liste et les salariés et des personnes âgées. Il y avait 15 personnes sur la liste. J'ai donné à cette personne, l'élu. Sur les 15 personnes, 12 ont eu les appartements, que des Comoriens. Les 3 autres n'ont pas eu. C'est pas normal.
Oui. Merci Joséphine. C'est donc, ce que je comprends, c'est que tu as fait le choix de rester pour le milieu associatif, oui. Mais tu es partie, tu ne résides plus là. Donc, non, comme d'autres hommes. Oui, mais je ne sais pas. Bon, c'est une question, c'est parce que nous allons passer à Marie-Yves et à Anas aussi.
Et c'est pas normal parce qu'il n'y a plus de repères dans ce quartier. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Quand les gens se permettent, par exemple, en plein jour, je vous dis en plein jour, l'association est au rez-de-chaussée, faire pipi, les hommes, et ce ne sont pas des enfants, des adultes. Ce n'est pas normal. Et personne ne dit rien parce qu'il y a la peur qui s'installe.
Bon, mais l'éducation. Moi, je rappelle qu'il y a le groupe de veille qui travaille énormément et qu'il y a beaucoup de progrès que j'observe, moi, personnellement. Ne serait-ce qu'à un moment donné, si vous vous souvenez bien, il y avait des barrages et des fouilles au corps. Donc, qui était mené et grâce au groupe de veille, malgré tout, il y a une possibilité de réunion, que ce soit des bailleurs, que ce soit de la police, que ce soit des différentes, que ce soit de l'État, la politique, etc., qui permettent d'obtenir ces résultats et que le quartier puisse être beaucoup plus propre. Que l'on voit que les employés sont là, qui ramassent les poubelles. On n'a qu'à voir qu'il y a beaucoup de progrès. C'est ce qu'il faut observer, que le groupe de veille est là, essaie de faire dans la mesure de leurs possibilités. Donc, je pense que ce groupe nécessite aussi qu'il puisse avoir de plus en plus de monde qui puisse venir pour participer dans le cadre de l'amélioration des conditions et du cadre de vie. Ceci étant, alors, merci Joséphine, mais nous aurons l'occasion de t'inviter à nouveau, mais pour que nous puissions parler strictement que de l'association Main dans la Main. Alors, nous allons passer à Marie-Yves. Je sais que toi, tu es très attachée. Oui. Que tu es très attaché au quartier, mais néanmoins, tu es parti, peut-être que tu n'es pas très loin.
Oui, tout à fait. Donc, bien sûr que je suis attachée à ce quartier, parce que je suis arrivée, j'avais 6 ans. Et déjà, je voudrais dire merci à Jean-Pierre pour le Body and Soul. Et après, plus tard, vous avez créé Maméga. Donc, c'était pour vous dire que cette mémoire que vous croyez qui part, elle est toujours présente chez nous. Parce que vous avez mis le paquet, on va dire. Notamment, ça a commencé par l'imagerie. Quand, je ne sais pas si c'est toi, Abou, qui a commencé à dessiner les anciens du quartier. Voilà. Et après, les plus jeunes aussi, votre génération, qui était un peu plus haut face à tes locaux. Donc, ce qui a permis déjà aux jeunes de voir des couleurs, même s'ils ne savaient pas trop lire ni écrire, mais de voir des visages. Et des personnes qui ne connaissaient pas, ils posaient des questions. Qui est ce monsieur? Qui est cette personne? Et justement, j'avais été touchée parce qu'il y avait mon papa. Merci Jean-Pierre d'avoir mis à l'honneur. Et mon papa, c'était quand même une grande personnalité de ce quartier parce que lui faisait un peu de l'éducation des enfants. De par sa corpulence, il était très grand. Et il criait tout le temps après les gosses en disant « Allez à l'école, il faut aller voter, il faut faire ça. » Il était tout le temps en train de les réprimander. Et les parents, ils disaient rien parce qu'il avait une voix qu'il portait. Et du coup, il essayait toujours de les mettre dans le droit chemin. Et quand on me croise jusqu'à maintenant, on parle toujours de lui, de sa générosité. Il était cuisinier, c'était un navigateur. Donc, il avait fait tout, pas mal de pays. Et pour les enfants, c'était un livre d'histoire parce qu'il racontait de vraies histoires concrètes qu'il avait vécues. Et à travers la cuisine, que Jean-Pierre aimait beaucoup et d'autres aussi, il faisait manger des choses extraordinaires. Et les enfants, ils étaient toujours contents de le voir. Il leur donnait toujours un bonbon, de l'argent. Mais il était toujours dans la discipline, le respect. Il leur apprenait beaucoup de choses. Et ce qui m'a marqué aussi pour cette génération, la vôtre justement, il était venu me voir à l'époque, Kamel Boudjelal, sa troupe, faisait du théâtre et il avait sorti une pièce qui s'appelait « La révolution des Chibani ».
Oui.
Et il m'avait demandé si ça ne me dérangeait pas parce qu'il avait mis mon père à l'honneur dans cette pièce. Et il parlait justement, il avait refait mon père avec son accent et qui racontait aussi comment il incitait les jeunes à rentrer dans ce fameux chemin qui leur permettrait plus tard de voir le jour, quoi, on va dire ça comme ça. Et je pense que cette mémoire, elle perdurera toujours parce que moi, quand je parle d'Abusserie, n'importe où, tout le monde connaît, a une histoire à raconter, a un lien, a quelque chose. Et ce quartier, franchement, il est relié dans tout Marseille. Tous les gens que je connais, quand je croise, ils disent « Ah, mais mon cousin habitait là-bas. Oh, mon neveu. » C'est une plaque tournante éphémère d'un côté et créative et constructive de l'autre parce que les gens, ils ont toujours un lien avec ce quartier. Et aujourd'hui, je travaille au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Donc, c'est une unité, une très belle unité qui se donne vraiment pour les Marseillais à 200%, voire à 300%. Et dommage qu'il n'y ait pas des jeunes issus de nos quartiers parce qu'ils sont beaucoup sportifs ici, notamment depuis le parcours qu'on a eu récemment. Là. Et le Fontoscure, qui était notre premier lieu de distraction pour pouvoir s'évader à travers le sport, qu'ils ne puissent pas venir intégrer cette unité parce que je pense que ça leur ferait un très grand bien déjà d'avoir de la discipline. Parce que on est la seule unité où il y a la marine, donc c'est militaire, donc ça leur ferait du bien de connaître un peu des règles. Et aussi de savoir que, de par leur métier, ils pouvaient se rendre utiles et être au service de la population. Et moi, je trouve que c'est important. Et c'est dommage qu'il n'y a pas plus de personnes qui viennent se faire recruter dans cette unité qui est une merveilleuse unité. Voilà, je conclurai avec ça.
Merci Marie. Nous allons continuer avec Ness. Alors Ness, toi, tu es agrandi, tu es toujours un peu attaché. La meilleure preuve, c'est que tu es avec nous. Hein. Oui. Donc cet après-midi, donc tu es agrandi et tu reviens. Bon, donc qu'est-ce qui a motivé ton départ?
Alors c'est vrai qu'on quitte le quartier parfois pour des raisons professionnelles aussi, personnelles. C'était très difficile pour moi. J'ai une spécialité dans le pétrole et le gaz. Et je ne vois pas comment Marseille ne m'aurait jamais accepté. J'ai candidaté pour la raffinerie de Marseille. C'était même pas, je savais que c'était peine perdue. Donc il fallait que je m'exporte à l'étranger. Puis c'est comme ça que j'ai pu plus ou moins travailler. Ensuite, c'est Paris qui m'a ouvert ses portes. Puisque la première surprise que j'ai eue à Paris... C'est quand je suis arrivé, la première semaine, j'ai vu un taxi noir, chauffeur de taxi. Ça n'existait pas à Marseille. C'était impensable de voir un taxi. Je lui dis, mais attendez, on est bien... Et mon petit frère, qui était informaticien sur place, je lui dis, mais tu sais ce que j'ai vu? Il me dit, quoi? J'ai vu un chauffeur de taxi noir. Et il éclate de rire. Il me dit, mais tu viens d'arriver, toi? Je dis, oui. Et donc, ce sont des choses que... On veut pas comprendre, on veut pas l'accepter du moins, mais force est de constater que c'était le cas. Maintenant, si je regarde le rétroviseur et que je regarde mon passé, il y avait quand même des bons côtés. Je me rappelle, par exemple, on l'appelait le Atome, je crois, là,
L'Atome,
au oui. Bâtiment P, où on donnait des cours de français et des cours de calcul gratuits. Moi, j'ai toujours été surpris que j'avais des copains qui venaient pas. Je leur disais, mais on te donne le cahier, le stylo, le prof de français. Pourquoi tu ne viens pas? Des amis, on se trouvait sous le porche à discuter. Ils ne venaient pas. Il y avait des gens de Fontvert, de Picon, de la Busserine, un peu de tout le monde. Il y avait aussi la maison de quartier, où souvent il y avait les concours de boules, etc. Bon, moi, j'étais jeune, j'allais. C'était plaisant, quoi. Mais si je devais parler à la jeunesse d'aujourd'hui, je leur dis, attendez, vous avez... des infrastructures qui n'existaient pas de notre époque. Moi, je rêvais d'apprendre à nager, il n'y avait pas de piscine. Le stade n'existait pas. La mosquée de nos parents et de nous-mêmes, aujourd'hui, elle n'existait pas. C'était impensable. Il y a des infrastructures aujourd'hui qui vous tendent les bras. Enfin, je parle à tous ces jeunes qui n'en profitent pas. Et j'aurais été le premier à camper dans la piscine, dans le stade, etc. Donc, voilà un peu ce qui m'étonne. C'est, est-ce que ce n'est pas une volonté ? À quoi cela est dû qu'on ne veut pas ? On te donne des cours gratuits, tu ne veux pas y aller. Tu as la piscine où on peut apprendre à nager. Tu as le stade. Voilà un peu de mémoire. Je dis que le quartier a évolué au niveau, dans le bon sens. Quand on rentre ici, on est surpris d'une chose. Je lui dis à Jean-Pierre tout à l'heure, je lui dis, c'est bizarre. Il est très beau, le quartier. Ils ont refait toutes les façades. Toutes les peintures ont été refaites. On a l'impression que c'est presque un quartier résidentiel. Ce n'est qu'en restant à l'intérieur que l'on voit réellement le changement. Mais si vous regardez, tous les bâtiments étaient repeints. On a mis des balcons pour la plupart qui n'existaient pas à Saint-Barthélemy 3. Mais moi, on a tracé des places de parking, etc. C'est très bien ordonné. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, c'est peut-être là où...
Une petite information, là. Tu parles de ATOM. ATOM, ça veut dire Aide aux Travailleurs d'Outre-mer. C'était une association issue de la colonisation de l'Algérie. C'est-à-dire que c'est des gens qui nous prenaient pour des indigènes. Et donc, toi, de ton point de vue, à l'époque, tu ne le voyais pas. Moi, qui habitais à Bassens, je les ai connus pendant très longtemps. Donc, c'est des gens qui ont été envoyés pour nous civiliser. Aide aux Travailleurs d'Outre-mer, rien que le nom, ça suffit.
Mais là, c'était des cours de français.
Non, mais je sais bien, mais ils avaient un rôle social, c'était de civiliser des gens. Et donc, par exemple, ceux de Bassin, c'était de nous apprendre à être, enfin, de nous faire en sorte qu'on soit capable de rentrer dans des HLM. Donc, il fallait vraiment, pour moi, donc ma famille, on a vécu là-bas 10 ans pour apprendre à aller dans des HLM. Mais 10 ans pour apprendre à habiter dans HLM, madame, soyez sérieux.
Oui, mais parce que, monsieur, il y a eu des personnes qui sont arrivées, qui ne savaient ni lire et écrire. Donc, il fallait quelque part pour apprendre. Et même quand on va à l'école, tout à l'heure, vous avez dit, on va aller à la Tour Sainte, c'était réservé que pour les parents qui avaient des moyens. Non, moi, je dis non. Quand on ouvre quelque chose pour les, pour les promos arrivants, c'est pour nous aider, pour aider ces personnes. Parce que s'il n'y a pas des lieux...
Excusez-moi, mais c'est que nous nous éloignons du sujet d'aujourd'hui. Ça peut faire l'objet d'un débat.
Oui,
donc, il me semble important de... Excusez-moi, Joséphine. Oui. Voilà. Donc, oui. Donc, oui.
Et puis, à la Busserine, à l'école.
Oui.
Et je soutiens ce qu'il est en train de dire. Enfin, ce qu'il vient de dire.
Oui.
Et à l'époque... il y avait l'école à la Busserine, la maison de quartier. Il y avait les infrastructures, école de musique, école de danse, école de ceci.
À la maison de quartier.
Oui, oui.
C'était la maison de quartier.
Mais il n'y avait personne des enfants d'ici. Mon fils était le seul qui faisait le piano. Et tous les enfants venaient des quartiers sud. Ou bien de...
Et du Maille.
Et ça continue jusqu'à présent. Hein. Ouais. Ça n'a pas changé.
Oui.
Et pourquoi ?
Alors, Olivier.
Du coup, je voulais faire un pont, ce qui se disait sur la question de finalement la mémoire du collectif Mamega. Je voulais juste refaire un témoignage sur le livre Monsieur Tire de Karima Berich.
Oui.
A été précurseur dans la manière dont on a appréhendé le scénario du film Grand Ensemble. Aidé aussi d'un travail de Virginie Babicolin qui avait du coup aussi fait tout un travail sociologique sur l'histoire du quartier de la Busserine, du Grand Saint-Barthélemy et des différents collectifs et militants qui s'étaient battus justement pour avoir un accès ou en tout cas pour demander des équipements socio-éducatifs de mobilité et d'éducation qui n'ont pas été imaginés quand ils ont livré la ZUP 01. Et que c'est parce que cet objet que Karima Berich a écrit qu'on a pu nous s'approprier cette mémoire et qu'on a ensuite dans les mots d'Ahmed, réussi à transmettre aussi au plus grand nombre par l'intermédiaire d'un film. Du coup, il y a bien un processus où chaque génération finalement lègue quelque chose à la génération d'après, et le principe c'est que chaque génération s'en inspire et recrée par la suite une forme, et c'est cette nouvelle forme qui, parlant peut-être à des gens plus jeunes, viendront un jour nourrir une réflexion. Et peut-être que dans 20 ans, quand d'autres jeunes de 20 ans se diront bah, « il y avait Système D, mais nous, on voudrait aussi lancer notre structure », pourront se baser sur le travail qui a été fait. De la même manière que, sortant d'un entretien avec Jean-Pierre sur Body and Soul, on voit que ce qui a été mené pendant près de 84 à 2004, pendant plus de 20 ans ici, 2009, rentre en écho avec ce que fait actuellement Système D. Et finalement, même si chacun a son... Là, actuellement, Système D, le sport, le football est une signature, mais tout le travail que vous faites sur la mémoire et la place de l'habitant est aussi fait partie de leur ADN. Et de la même manière que dans Body and Soul, la danse était un curseur, un outil, mais en fait, ça touchait de manière plus ample la construction et le parcours des jeunes qui étaient accompagnés par Body and Soul.
Alors, une petite précision. Le livre écrit par Karima Berich, le livre du comité Mamega, commande du comité Mamega sur la mémoire, mais écrit par Karima Berich.
Oui. Donc, je tiens à vous remercier pour ce témoignage que je trouve très, très fort. J'espère que nous pourrons réitérer ce type d'émission avec les générations qui sont là, ou que nous ne puissions pas séparer, mais qu'il puisse y avoir cette rencontre qu'il ne faut pas que cela devienne une confrontation, mais c'est un échange, mais surtout une idée de transmission aussi d'une génération à une autre, pour voir un peu quelles sont les erreurs peut-être à éviter pour pouvoir continuer à cheminer ensemble et rejoindre un peu ce que disait Swala, c'est-à-dire réfléchir à un projet collectif et à un destin commun. Toutes ces communautés qui sont là, même si elles sont diverses, me semble-t-il qu'à un moment donné, il faut qu'elles puissent prendre conscience qu'elles doivent constituer et devenir une communauté de destin et en prendre conscience pour pouvoir continuer à avancer. Donc je vous propose de faire une dernière pause musicale. Je vous remercie très sincèrement d'être là et j'espère que lorsque nous ferons une autre émission, que vous répondrez à nouveau présent, que ce soit avec les jeunes pour écouter un peu plus de musique de leur génération, parce que c'est une génération qui n'est pas la mienne. Donc pour le moment, je vous propose une petite respiration musicale avec John Lennon, Imagine, sur 88.4, Les Échos. Bon, les Beatles, comme tu le sais, Jean-Pierre, peut-être que tu as besoin d'aller main dans la main aussi faire un tour. Allez. Alors, normalement, la dernière partie des échos du Grand Saint-Barthélemy est en lien avec les différents communiqués. Nous n'aurons pas le temps de vous présenter ces communiqués, sauf de vous dire que toutes les activités qui sont programmées et qui se déroulent actuellement à partir de 18h, Centre social Agora, MFA, actuel, c'est Centre social Saint-Barthélemy ainsi que Centre social Flamand-Iris, mènent des actions toujours du côté de la plaine des loisirs. Donc vous pouvez vous rendre là et participer à partir de 18h. As-tu un complément d'information, toi qui connais ? Bon, voilà. Donc nous n'aurons pas le temps de vous communiquer ces informations. Néanmoins, nous devrions remercier. Bon, nous n'oublions pas qu'il y a le soutien de la politique de la ville pour nous permettre de réaliser ce type d'émission. Alors, politique de la ville, c'est l'État, la métropole et le département qui restent à nos côtés malgré toutes les difficultés du quotidien. Et j'espère que les jeunes qui sont ici ne seront pas des réservistes par rapport à ceux qui nous guettent et les va-t-en-guerre qu'il y a aujourd'hui, hein, quel que soit le pays européen ou ailleurs. Donc, ce soutien, pour moi, est d'autant plus précieux qu'il intervienne dans ce moment qui est extrêmement difficile et particulier pour le monde associatif, déjà très fragilisé, et encore davantage pour les publics les plus défavorisés, les plus précaires. Nous allons terminer avec les jeunes, pour dire que nous ne sommes pas trop vieux. Hein. Nous allons terminer avec le collectif 13. 13 organisé, c'est ça ? C'est avec Jules, avec toute la bande là. Donc, et ça s'appelle Je suis Marseille. Certainement, vous devez connaître un peu. Donc, mais néanmoins, je souhaiterais vous soumettre à votre réflexion quelqu'un que j'aime beaucoup, dont on a fêté, célébré, pas enterré, mais il s'agit de Franz Fanon, que certains doivent connaître aussi. Donc, faire part un peu d'une phrase que l'on retrouve dans les derniers de la Terre. Je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. » Donc, c'est une façon de pouvoir transmettre quelque chose et que vous puissiez être de plus en plus conscient que le monde dans lequel nous vivons est extrêmement brutal, compte tenu de la crise, et que de plus en plus, ce seront les plus pauvres qui seront amenés à prendre en charge cette crise-là financièrement, dans la mesure du possible, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu quelle serait la contribution des plus riches. Par contre, toujours, nous entendons, ne serait-ce que EDF, GDF, aujourd'hui, il y a une augmentation, la pose des augmentations, et ce sont surtout les plus précaires qui seront touchés par tout ça. Et je pense que les générations que vous êtes aussi doivent aussi être assez forts pour permettre que les choses puissent changer. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et nous pouvons passer à ce morceau qui relate une réalité d'une génération qui n'est pas la nôtre. J'aurais préféré Léo Ferré, bien sûr, Jean Ferrat, Aznavour, etc. Toutes ces personnes-là que vous avez peut-être aimées ou bien écoutées comme cela. Mais tant pis. Mais merci d'être toujours présent et d'être là et que vous répondrez probablement à notre prochaine invitation. Et merci à Sidi, merci à Radio Galère aussi de venir sur nos quartiers toujours pour être porteur de la voix des habitants et des associations de nos quartiers. Merci Sidi. Allez, le générique, c'est... Non, le morceau, là, pour les jeunes, pour dire que nous sommes encore un peu jeunes, nous aussi. Allez, merci Sidi.
L'école était accrochée à un flanc de colline, surplombant une ville vieille de 3 millénaires. Lorsque la nuit tombait, étalant son voile noir sur la cité, sa robe scintillait de milliers de lumières oranges. Ouvrez les yeux, vous êtes à Marseille.
Je suis de l'époque où cette ville a connu tant de peines, où sa jeunesse s'envoyait du rêve dans les veines. Lorsque les vrais avec leurs poèmes menaient les chrysanthèmes, mais que les grands baladaient les fers dans les vestes. Fossé ancré dans mon ADN, claquette des KTM. On fait le monde assis sur le capot de la BM. Coincé entre mépris, des poches gonflées de thunes et les putes insipides des poufs qui se font gonfler le cul. Je suis un enfant des grues, des containers, mais considère que ce petit lopin de terre nous confédère. On suit la voie du Mike de la Soli à Benza, IAM, MRN. jeunesse indépendante.
Je marche en bande organisée, pas là pour sympathiser. Ils ont pas cru en moi, t'inquiète, au final ils ont réalisé. Vois pas si tu sais pas teaser, tire pas si tu sais pas viser. Je traînais au quartier jusqu'à tard, je me rappelle que maman crisait. Samedi soir électrisé, pareil que ça se fight au vieux port. Sortie de boîte arrosée, Brunja ça veut s'arroser. On passe en décapotable, comme des bad boys. Mais vu nos têtes, Chiquita elle veut pas causer. Elle sait que ça veut pas se poser. C'est la guerre comme ça va Stano et Salvatore Conte. Les petits ils savent pas lire, mais t'inquiète, savent conduire et compter. Règlement de compte, tout cagoulé comme sur l'île de beauté. Fais gaffe, tu peux te faire tourner par un mec dans le bar d'à côté.
On dit plus Versace, on dit chemise à l'Alger. Lunettes quartier, les petits ont repris le renté. Bois un coup à ma santé, c'est PD font que me reste. Change de fuseau horaire, fais le tour du monde, tu jet lagué. Marseille la nuit, ça roule en bolide. Brelique, ça veut du liquide. Wahed hypocrite, tu portais le masque avant le Covid. Ça va trop vite, même ton ami te trahit. De rafale et présente les condoléances à ta famille. Les petits en roue arrière, sur la canebière, sur le cross volé. J'ai vu sur la mer, j'ai trop vu la mer. Arrête de t'affoler, on fera pas affaire. Tu prêtes 20 000 euros pour pas te rembourser. Il est capable de faire, on bosse avec des couches tard.
Eh ouais, l'Alger de la case, on bouge tard, on bouffe tard.
La quicheta ou la pouche.
Tous les jours, j'attends mon heure. Les genoux nourrissent ma peur. En cours, j'étais rêveur, mais mes couilles, c'était mon moteur. L'adresse, c'est quartier nord. Les traîtres, c'est la bac nord. La brèche, c'est le disque d'or. Et le reste, c'est du désordre. Eh ouais, amour aimé au Marseille, c'est devenu Rio. J'ai les mains dans la chra, depuis ma clé, oh mon pote. J'en deviens malade vegan, j'fume que la salade. Des boîtes, faut du recalage de billes, combien le calage. Joule, c'est normal, I am, c'est normal.